d'accueillir le docteur Bernard Croisil, psychologue aux Hospices Civils de Lyon, chef du service neuropsychologie à l'hôpital Pierre Wertheimer. Donc, on l'a compris, entre ceux qui s'affolent dès qu'on oublie un nom de famille et ceux qui ne veulent consulter personne alors que tout le monde dans leur entourage s'inquiète pour eux, il faut dépister et encore faut-il avoir les bons outils. Racontez-nous pourquoi ce diagnostic précoce est si important, docteur Bernard Croisil.
Merci, madame. Monsieur le représentant du maire de Lyon, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux de participer à ces entretiens Alzheimer à Lyon. Et je voudrais remercier Bruno Dubois, parce qu'on se connaît effectivement depuis très longtemps, d'avoir présenté de manière complète tous les problèmes actuels. Mais comme vous le savez, la mémoire, c'est parfois apprendre plusieurs fois la même chose. Ce qui fait que certaines choses qui ont déjà été abordées par Bruno le seront par moi, mais d'une manière peut-être différente. Après, il y a quelque chose que je voudrais vous révéler sur Bruno Dubois, c'est qu'il a un énorme défaut, c'est qu'il est toujours en avance de 5 ans sur tout le monde. Ce qui fait qu'il a toujours eu des idées extrêmement originales, et je me suis souvent inspiré de toi lors de mes présentations. Alors, nous allons donc parler du diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Cela ne veut pas dire que nous allons parler des formes précoce de maladie d'Alzheimer. On est bien d'accord. Ensuite, alors effectivement, voilà. Trois questions se posent. Tout d'abord, que veut dire diagnostic précoce? Ensuite, comment faire un diagnostic précoce? Et enfin, pourquoi faire un diagnostic précoce? Alors tout d'abord, que veut dire un diagnostic précoce? Ce n'est pas un problème d'âge, comme la question qu'on a posée, c'est un problème de moment. On n'est pas là pour faire le diagnostic à l'âge de 1 an, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans. On est là pour faire le diagnostic à un moment particulier de l'histoire médicale d'une personne qui nous donne suffisamment d'informations pour évoquer ce diagnostic et lancer les outils. Alors, un diagnostic précoce, c'est en fait tout d'abord un diagnostic de certitude, c'est-à-dire savoir que l'on a la maladie, mais on peut le savoir de plusieurs façons. On peut le savoir parce qu'il y a des anomalies biologiques qui ont déclenché un processus particulier dans le cerveau. On peut ensuite avoir une révélation clinique, c'est-à-dire que la personne ou son entourage vont avoir des plaintes. Comme l'a dit fort justement Bruno, moins on se plaint, mieux c'est. Mais si l'entourage se plaint beaucoup, là, effectivement, il vaut mieux venir amener la personne à une consultation mémoire. Donc, il y a un moment où la clinique, par les plaintes, souvent de l'entourage et par les tests cognitifs, nous apporteront des informations importantes. Enfin, il y a la possibilité de mutations génétiques. Mais je ne vais pas en parler parce que les mutations génétiques sont très rares. On vous a dit les chiffres tout à l'heure de maladie d'Alzheimer. En fait, les formes héréditaires, c'est-à-dire liées à une mutation particulière, c'est aux alentours de 1000 à 2000 cas. Donc ce ne sera pas notre propos aujourd'hui. Ensuite, il y a une autre façon de faire un diagnostic précoce, qui rejoint ce qui a été dit par Bruno Dubois, c'est faire le diagnostic du risque d'avoir la maladie, c'est-à-dire d'identifier des facteurs de risque ou des facteurs de susceptibilité. Comment faire un diagnostic précoce de la maladie? Alors on va revenir à quelques définitions. Comme l'a dit Bruno, autrefois la définition était clinique, c'est-à-dire que l'on interrogeait, on examinait les patients et on observait des troubles cognitifs, principalement de mémoire lorsqu'on est dans la forme amnésique de maladie d'Alzheimer, mais aussi des troubles du raisonnement, du jugement, du langage, de la concentration, des gestes sophistiqués, etc. etc. On analysait également la présence de troubles psychocomportementaux, en premier lieu l'apathie, mais aussi la dépression, l'anxiété, l'agressivité, les modifications des rythmes nictéméraux, des rythmes d'alimentation, etc. Et la combinaison de ces troubles cognitifs et de ces troubles psychocomportementaux aboutissait à la perte d'autonomie, avec ce fameux terme évoqué par Bruno de démence. On ne l'emploie plus maintenant, on emploie un autre terme, c'est celui de trouble neurocognitif majeur. Mais c'est vrai que ce terme de démence, il a été longtemps utilisé, on continue un petit peu à l'utiliser pour certaines maladies. Mais l'analyse étant clinique, la certitude, on ne l'avait, comme l'a dit Bruno, qu'à l'autopsie. Donc on faisait un diagnostic du vivant de la personne qui était probabiliste. Et pendant très longtemps, on avait peu de chances ou peu de risques de se tromper quand on disait vous avez une maladie d'Alzheimer, la probabilité était aux alentours de 95%. Les autres 5% étant d'autres présentations, en sachant en outre que l'on a découvert d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer, bien évidemment, il y a d'autres formes de démence, les démences frontotemporales, la maladie à Cordes-Lévy, etc., etc. Donc c'était un diagnostic de probabilité. Et puis avec l'avancée des sciences, des technologies et la participation des patients qui acceptaient de se prêter à des analyses, on a maintenant un diagnostic biologique du vivant de la personne de ce double dysfonctionnement protéique. En fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une anomalie de certaines protéines cérébrales, la protéine amyloïde et la protéine tau. Et ce dysfonctionnement, on peut l'analyser chez des personnes qui n'ont aucun symptôme clinique. C'est ce qu'on appelle la phase pré-symptomatique, c'est-à-dire que pendant 15 à 20 ans, vous pouvez avoir en vous, dans votre cerveau, ces anomalies biologiques de la protéine tau et de la protéine amyloïde, sans avoir aucun symptôme. Là, par exemple, on pourrait me faire une ponction lombaire, j'ai peut-être déjà ces anomalies, alors que, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, a priori, tout va bien dans mon comportement de conférencier.
On confirme.
Merci beaucoup, madame. Après, arrive, bien évidemment, après ces 15 à 20 années d'accumulation d'anomalies biologiques, arrivent des symptômes. Mais il y a cette phase prodromale évoquée par Bruno. Cette phase prodromale, c'est-à-dire que les personnes ont des anomalies de mémoire importantes qui vont parfois déjà inquiéter la famille, qui peuvent inquiéter les patients également, mais le patient reste autonome pour toute une série de raisons. Et ce stade prodromal, qu'on appelle maintenant trouble neurocognitif léger, il est extrêmement important pour nous, parce que bien évidemment, c'est à ce stade-là qu'on aimerait voir les patients de façon à pouvoir leur proposer certaines thérapeutiques, comme on en a parlé. Et puis ensuite arrive le stade symptomatique, c'est-à-dire qu'il y a ces troubles cognitifs, il y a ces troubles psychocomportementaux, mais ils deviennent de plus en plus importants, il y en a de plus en plus, et deviennent de plus en plus intenses, et ils retentissent de manière importante sur l'autonomie. C'était ce qu'on appelait le stade de démence, et maintenant celui de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, voilà l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, donc on va l'analyser. En fait, non, parce que c'est un peu compliqué. Si j'avais une heure de plus, je pense que je pourrais détailler tous les éléments de ce tableau, mais Bruno les a abordés. Alors moi, je vais essayer de reprendre ceci d'une manière un peu plus pédagogique pour vous. On est bien d'accord, les trois stades que j'ai évoqués, le stade présymptomatique, le stade symptomatique sans perte d'autonomie, qu'on appelle prodromal, et le stade symptomatique avec perte d'autonomie, qui comporte différents stades, et en particulier le stade léger. Et bien évidemment, quand on parle de stade précoce, on est soit au niveau du présymptomatique, soit du symptomatique sans perte d'autonomie, soit au tout début, au stade léger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, au stade présymptomatique, on pourrait, par une ponction lombaire, démontrer la présence des anomalies des protéines amyloïdes et de la protéine tau. Là, on a un diagnostic de certitude. On pourrait également, dans des pays un peu plus, comment dire, industrialisés que la France, pouvoir disposer de PET scan amyloïdes, mais comme l'a dit fort justement Bruno, cela a été refusé au niveau du ministère, sauf dans certains cadres de recherche. Mais par la ponction lombaire ou par les PET scan amyloïdes, on peut avoir la certitude qu'il y a dans le cerveau, dans le système nerveux central des personnes, ce diagnostic biologique. Sauf que si on me faisait là une ponction lombaire et que l'on démontre que j'ai ces anomalies, on ne peut pas savoir si je vais débuter la maladie dans un an ou dans 20 ans. On sait que j'ai le processus, mais est-ce que ce processus va s'emballer pour devenir symptomatique dans un an, deux ans, trois ans? On ne le sait pas. La preuve, c'est que l'étude INSIGHT que vous a présentée Bruno tout à l'heure a bien démontré que quand on suit sur 7 ans 88 personnes ayant des anomalies amyloïdes mais étant parfaitement saines cliniquement par ailleurs, seulement 16 sur 88 ont développé la maladie. Donc c'est ça qui est important. On peut avoir le processus, mais on ne sait pas quand il va s'emballer, quand il va s'enflammer. Alors quand il s'enflamme, donc on arrive au stade symptomatique. Et au stade symptomatique, eh bien, là aussi, quand vous avez des symptômes avec ou sans perte d'autonomie, si l'on fait la ponction lombaire ou si l'on fait le PET scan amyloïde, on a ce diagnostic de certitude. Mais on ne peut pas le faire à tout le monde pour des tas de raisons. Par exemple, quelqu'un qui a des anticoagulants, on ne va pas arrêter les anticoagulants pendant 2-3 jours pour pouvoir faire la ponction lombaire. Donc le plus souvent, on fait le diagnostic de manière probabiliste, en interrogeant le patient et son entourage, mais comme l'a dit Bruno Dubois, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que remarque la famille, et la famille remarque des difficultés de mémoire avec le fameux oubli à mesure. Vous dites quelque chose au patient, 5 minutes après, il faut le lui redire, et sur une demi-heure, on va répéter 3, 4, 5, 6 fois la même information. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas attentive, ce n'est pas parce que la personne a mal entendu, parce que dans ces cas-là, on va répéter une fois et ce sera suffisant, mais si vous êtes obligé de répéter 3, 4, 5, 6 fois la même information dans la demi-heure, c'est qu'il y a vraiment un trouble de la consolidation hippocampique. C'est-à-dire que ces fameux hippocampes qu'on vous a montré tout à l'heure ne sont plus en mesure, comme le disait Bruno, de transformer le présent en passé. Et pour nous, le passé, c'est au bout de 2-3 minutes. Donc l'interrogatoire est important. Il permet également d'analyser les troubles comportementaux. Est-ce qu'il y a de l'agressivité, de l'apathie, etc., des hallucinations, des troubles du sommeil. Et puis on va faire un bilan cognitif qui va analyser la mémoire, le raisonnement, etc., etc. Et puis on peut faire une IRM également. Alors, ce bilan, je n'ai pas tellement le temps de le développer, mais il est en fait assez simple, sauf qu'il peut prendre environ 2 à 3 heures avec une psychologue. Au cours de ce bilan, on va bien sûr tester la mémoire, et l'objectif, c'est de faire apprendre aux patients une liste de mots ou une ou deux histoires ou des dessins complexes, de les faire, les faire apprendre donc, et de voir 20 minutes plus tard s'ils sont toujours en mesure de donner ces informations avec ou sans indice. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut avoir du mal à retrouver des informations, mais si on vous donne un petit indice, cet indice permettra de retrouver plus facilement l'information. C'est ce qui arrive à tout le monde à partir d'un certain âge. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, cette tête de l'indissage s'effrite jusqu'à disparaître. Donc ces tests de mémoire sont cruciaux, mais on analyse également le raisonnement, le jugement, le langage, la concentration, parce que ce sont des fonctions qui sont altérées dans la maladie. Mais il est important pas seulement de regarder ce qui est altéré, mais de voir ce qui est préservé. Parce que si on doit lancer une remédiation cognitive, on va s'appuyer sur ce qui est préservé pour pallier ce qui est altéré. Enfin, l'analyse des troubles psychocomportementaux est très importante. Je vous l'ai dit, on peut avoir des hallucinations, de l'apathie, de l'agressivité. Et ceci va parfois plus impacter les aidants que le trouble de mémoire. Et de toute façon, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, ce sont ces troubles psychocomportementaux qui vont nécessiter des traitements psychotropes et puis parfois l'entrée en établissement parce que le maintien à domicile devient impossible. Alors, j'aimerais dire un mot sur l'IRM. Parce que le plus grand pourvoyeur de patients à ma consultation sont les radiologues, parce qu'ils font peur aux patients. Pourquoi ? Parce que l'on sait qu'il peut y avoir dans le patient, chez les patients ayant une maladie d'Alzheimer, une atrophie hippocampique. Alors là, vous voyez, c'est un cerveau qui est vu en coupe verticale, c'est-à-dire que le haut est en haut et le bas est en bas. Et vous voyez, alors je vais quand même le montrer. Le problème, c'est qu'on peut avoir une atrophie hippocampique dans la maladie d'Alzheimer, mais pas tous les patients. Des patients ayant un réel Alzheimer peuvent ne pas avoir d'atrophie hippocampique. Premier point. Deuxièmement, des personnes tout à fait normales peuvent avoir une atrophie hippocampique sans avoir de maladie d'Alzheimer. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, peut-être, ils ne l'auront pas. Et peut-être que dans 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, elles l'auront. Mais en tout cas, on peut être normal avec une atrophie hippocampique, et puis il y a d'autres maladies neurodégénératives qui peuvent donner des atrophies hippocampiques. Donc si sur le compte-rendu de votre IRM, il est noté atrophie hippocampique, c'est vrai qu'il est nécessaire de rencontrer des médecins spécialisés en consultation mémoire, mais ce n'est pas forcément un facteur d'inquiétude majeur. Ensuite, pourquoi faut-il faire un diagnostic précoce ? Eh bien, cela permet d'abord d'informer, parce qu'il y a eu une époque où beaucoup de médecins nous disaient à quoi sert-il de faire le diagnostic précoce d'une maladie dont on n'a pas de traitement. C'est une remarque complètement stupide. Vous imaginez qu'on ait dit ça à Yersin, par rapport à la peste ou à l'avrant par rapport au paludisme. Vous imaginez qu'on dise à Yersin, mais ça ne sert à rien de trouver la cause de la peste puisqu'on n'a pas de traitement. Bien évidemment, il faut d'abord trouver comment faire le diagnostic de certaines maladies pour trouver les traitements. Et bien, c'est la même chose. On ne va pas s'empêcher de faire le diagnostic précoce puisque justement notre objectif, c'est de ne pas attendre que tout l'immeuble a brûlé pour apporter des traitements. On va essayer d'appeler les pompiers et d'intervenir au stade où il y aura seulement une pièce qui sera en feu. Donc, il est important de faire le diagnostic déjà pour informer le patient et sa famille, parce que quand vous avez des plaintes, eh bien, venez voir le médecin et le médecin vous dira si ces plaintes sont légitimes ou inquiétantes. Et de toute façon, on peut apporter des aides, on peut donner des conseils, on peut lancer une remédiation cognitive. Mais l'élément pour nous médecins le plus important dans une démarche, comme je l'ai dit, Bruno a 5 ans d'avance sur tout le monde, c'est d'essayer de proposer des essais thérapeutiques. Et c'est vrai que notre service à l'hôpital neurologique, avec le docteur Hélène Mollion, ma collaboratrice, et le docteur Maïté Formaglio, ça fait un certain nombre d'années qu'on fait partie des 16 centres français qui font des essais thérapeutiques anti-Alzheimer. Et on a participé à l'essai du lecanemab, par exemple. Ensuite, les traitements précoces sont en train d'arriver, les immunothérapies sont en train d'arriver. Et comme vous l'a dit le professeur Bruno Dubois, ces traitements, il faut les donner tôt. Il faut les donner tôt parce que quand on a commencé à les donner, on les donnait trop tard, il ne se passait rien. Maintenant qu'on a identifié ces personnes à des stades légers, au stade prodromal, donc à des stades extrêmement précoces, on peut proposer des traitements avec une probabilité beaucoup plus importante d'avoir un ralentissement très significatif de l'évolution cognitive. Ensuite, pour revenir en arrière, voilà, pourquoi faire un diagnostic des facteurs de risque ou de susceptibilité? Eh bien, tout d'abord, on connaît maintenant quels sont les risques de développer des troubles neurocognitifs, soit certaines démences, soit une maladie d'Alzheimer. Tout d'abord, il y a les facteurs génétiques avec une hérédité potentielle, mais surtout des facteurs de susceptibilité. Bruno Dubois a évoqué ce terme d'ApoE, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, par une prise de sang, on ne doit pas le faire en pratique, on ne le fait qu'en recherche. Mais on le fera avec l'arrivée des immunothérapies, on devra le faire chez tous les patients. Mais on a la possibilité, par une prise de sang, d'identifier un certain facteur de risque qui, si vous l'avez en double dose, et ça survient chez 2% de la population, multiplie par 8 à 10 votre risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et c'est ce qui est arrivé à un homme âgé de 39 ans qui s'appelle Chris Hemsworth, qui est un acteur australien, je ne sais pas si vous connaissez la série des Marvels, qui joue le rôle de Thor, eh bien, cet Australien animait une émission sur la santé et le vieillissement et il s'est fait faire une prise de sang, ce qu'il n'aurait pas dû faire, hein, bien sûr, et il a découvert qu'il était identifié ApoE4 deux fois et ça veut dire qu'il a 8 à 10 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et ce risque n'est pas à 85 ans, il est aux alentours de 65-68 ans, c'est-à-dire qu'il a maintenant 41 ans. Il sait que dans 24 ans, il peut développer une maladie d'Alzheimer. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a modifié son comportement. C'était un sportif, mais il fait maintenant un sport un petit peu plus doux, avec un peu plus de cardio training et un peu moins de gonflettes. Il a modifié son régime alimentaire. Alors, il prend des bains glacés, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Mais en tout cas, il a développé une hygiène de vie qui lui permet de retarder la maladie. Parce qu'il y a un point très important qui a été dit par Bruno et que je vais vous redire, c'est qu'en fait, vous avez un curseur sur votre vie. Et ce curseur, vous pouvez l'avancer, c'est-à-dire avoir plus tôt la maladie d'Alzheimer, ou le repousser. Et c'est votre hygiène de vie qui va permettre de modifier ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a d'autres facteurs inquiétants, tels que l'alcool, tels que les lésions traumatiques sportives. On sait que les boxeurs, ou les footballeurs américains, ou les rugbymen qui ont des coups répétés sur la tête, hein, parce qu'il y a même des gens qui sont payés pour se donner des coups sur la tête, ce qu'on appelle les boxeurs, eh bien, ils peuvent développer vers la cinquantaine des lésions presque comparables à celles de la maladie d'Alzheimer. On sait que la dépression chronique augmente le risque de développer des maladies neurocognitives, neurodégénératives. Ensuite, les facteurs de risque cardiovasculaires interviennent aussi, parce que si votre cerveau il est agressé par le début d'une maladie neurodégénérative et qu'en plus vous avez des petites lésions vasculaires cérébrales, ben, votre cerveau, comment voulez-vous qu'il arrive à se défendre contre l'arrivée de la maladie neurodégénérative ? Et enfin, le point important, c'est que l'absence de stimulation cognitive est très délétère. C'est-à-dire que si vous avez fait des études courtes, Si vous avez un métier pas très stimulant, que vous ne compensez pas par des loisirs stimulants, si vous partez trop tôt à la retraite, si vous avez peu de loisirs, ou si vous êtes dans l'isolement social, familial, affectif, eh bien vous augmentez votre risque de développer ce type de maladie, ou en tout cas de l'accélérer quand vous avez déjà cette maladie. Ce qui fait qu'on peut envisager une prévention de la maladie d'Alzheimer, ce sera mon avant-dernière diapositive. Dans le cadre de cette prévention, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne va pas forcément empêcher, quoi qu'il y a quelques études qui l'ont montré, mais enfin bon. Mais globalement, on ne va pas forcément empêcher la maladie, mais on va la retarder. C'est-à-dire que vous allez déplacer votre curseur. Et si vous demandez, vous voulez développer votre maladie d'Alzheimer à quel âge? À 80 ans ou 85 ans? Ben, vous allez quand même plutôt répondre 85 ans. Donc même si vous vous dites, je vais quand même la faire, mais si je retarde de 5 ans cette maladie, c'est quand même pas mal. Donc il y a ce que j'appelle le carré d'as de la prévention, c'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps protéger vos neurones et protéger vos vaisseaux par le régime méditerranéen, je ne vais pas le développer, par l'activité physique et l'exercice physique. L'activité physique, ben, c'est marcher environ une heure par jour. Et attention, il y a des études qui ont montré c'est qu'il vaut mieux marcher une heure tous les jours de la semaine que 7 heures uniquement le dimanche. L'important, c'est la régularité. Donc ça, c'est l'activité physique. L'exercice physique, c'est de mettre un peu de cardio training, de monter les escaliers à pied, de faire de la gymnastique asiatique, etc., etc. Ça, ce sont les trois premiers éléments de ce que j'appelle le carré d'as. Le quatrième, c'est la stimulation de ces neurones par un style de vie cognitivement stimulant.
Par exemple, venir assister à une conférence sur la maladie d'Alzheimer.
Ça, c'est ce que vous faites le mardi. Le lundi, vous allez peut-être jouer au
belote.
Le mardi, vous venez nous écouter. Le mercredi, vous occupez de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous avez votre club de théâtre le jeudi, etc., etc. Parce que si, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Je joue au bridge tous les jours de la semaine. » C'est pas très bon. Ou alors, mettez-vous au tarot. Il faut changer. Il faut qu'il y ait de la nouveauté dans la stimulation. Si vous faites toujours la même chose, ben, c'est un petit peu... Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'art. Je m'intéressais beaucoup à la peinture 18e, 19e. Eh bien, depuis quelques années, j'ai beaucoup découvert l'art au XXe siècle, puis maintenant le XXIe, avec en particulier des artistes lyonnais. Donc, j'ai augmenté mon champ de stimulation cognitive. Et puis, on sait que ça marche. On sait que ça marche parce qu'il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'il y avait une réduction du risque de développer ce type de maladie qui, au Royaume-Uni, était aux alentours de 20-24% sur 20 ans et aux États-Unis de 44% sur 30 ans. Ce qui fait que c'est finalement un très beau message d'espoir, comme l'indiquait Bruno Dubois tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Dr Bernard Croix.